Chapitre 79. Assommé, Gabriel s'était adossé à un mur pour faire face à l'essaim de papillons noirs qui avait envahi son champ de vision. L'odeur entêtante du formol l'étourdissait. Il demanda à Adamovitch de l'accompagner à l'extérieur. 5 minutes plus tard, ils s'assirent sur un banc. Livide, Gabriel happait l'air dans de larges inspirations. « Expliquez-moi, » balbutia-t-il. Le professeur hocha brièvement le menton vers les étudiants qui le saluaient. Il gardait les mains au fond des poches de sa blouse, comme s'il avait froid. Son visage était empreint d'une gravité que le soleil ne parvenait pas à chasser.
À la fin des années 1990, Dmitri Kalinin a inventé une technique à base d'acétone consistant à expulser toute l'eau des cellules humaines et animales afin que le cadavre soit à l'abri de la putréfaction. Il applique ensuite une polymérisation avec de la silicone, de la résine époxyde ou du polyester, ce qui donne un aspect plastifié totalement malléable au corps. Puis il le débarrasse de sa peau pour le faire apparaître dans toute sa complexité musculaire, veineuse, artérielle ou viscérale. Il lui est alors possible d'imposer au cadavre écorché et imputrescible des postures proches de celles d'êtres vivants en pleine activité, des marcheurs, des danseurs.
Gabriel fut submergé d'images. Il avait déjà entendu parler de ça, il avait déjà affronté ces visions d'horreur dans des reportages à la télé.
Kalinin est d'origine russe, un brillant anatomiste qui a longtemps exercé à la très réputée Académie de médecine de Novosibirsk, en Sibérie, avant de venir s'installer en Pologne pour se consacrer à la recherche et développer son procédé unique au monde. Il y a créé un institut privé de plastination. C'est à ce moment-là que notre université et 2 autres du territoire ont commencé à lui fournir des corps pour ses études scientifiques.
La Sibérie, les Russes. Gabriel peinait à se concentrer sur les propos du professeur. Une idée effroyable, tel un point d'orgue à toutes ses découvertes, naissait dans sa tête.
Kalinin a marqué une vraie révolution dans l'anatomie macroscopique. À l'époque, ses intentions étaient purement pédagogiques et louables. Il voulait rendre accessible la connaissance anatomique aux étudiants, mais aussi au commun des mortels. Comment fonctionnons-nous? De quoi sommes-nous constitués? Rapidement, sous ce couvert, Kalinin a regroupé sa 30aine d'écorchés pour en faire une exposition, la première du genre en Pologne. C'était juste avant l'an 2000. Ça a été un événement, un succès fulgurant. Les gens se déplaçaient par milliers de tout le pays et même des pays voisins pour voir ces fascinantes sculptures humaines. Devant tant d'intérêt, ces plastinats, comme ils les appellent, ont quitté le plastinarium et ont été présentés partout, de Tokyo à San Francisco, sous l'intitulé « Inside Body ». Elle a suscité de nombreux débats, de vives critiques, ce qui a sans doute contribué à en faire en 2003 l'exposition itinérante la plus populaire au monde.
Gabriel imagina les visiteurs en extase devant des cadavres dépouillés de leur intimité, privés de leur droit de reposer en paix. Des anonymes qui avaient vécu, respiré, et qui étaient finalement livrés pour l'éternité au regard du tout, nus, écorchés, coupés en tranches. Et il pensa à Julie et à Mathilde. Et ces pensées-là lui furent insupportables. Il a continué, fit-il en observant ses mains ouvertes et tremblantes. Son musée, ses écorchages, il continue encore aujourd'hui. Le professeur acquiesça.
Plus que jamais. À ce jour, plus de 25 millions de personnes les ont vues. La fascination dépasse la peur du cadavre. Kalinin ne cesse de mettre en avant ses nombreux titres académiques et les traditions anatomistes de la Renaissance pour justifier son travail très controversé. Léonard de Vinci, Vézal... La dissection a toujours existé comme un volet primordial de la formation des spécialistes. Kalinin, pour se prémunir de toute polémique, a même recruté des médecins qui donnent des cours dans son plastinarium, lieu où se mêlent salles de conférences, expositions et pièces équipées pour la préparation des corps. Il possède aussi un site internet sur lequel il revend des pièces anatomiques plastinées à plus de 400 laboratoires et universités, des organes, des muscles, des os, pour l'éducation et l'instruction de la relève. Certaines de ces pièces sont même ici, dans nos classes. Quant au nombre d'écorchés, dont la plus grande partie sont en permanence au plastinarium, il y en a plus de 400, parmi lesquels une centaine d'animaux.
400. Gabriel était incapable de parler.
« Mais nul n'est dupe, »
lâcha le professeur.
« Derrière le scientifique se cache l'artiste qui a soif de reconnaissance et veut laisser son empreinte. » Pour chaque sculpture, il y a une légende avec un titre, la date de création et la signature de Kalinine. Cette façon de faire s'inscrit dans la tradition de l'histoire de l'art. Elle permet de distinguer une production d'une autre. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Kalinine a, en définitive, créé une nouvelle forme d'art ultime. Il aime aller de scandale en scandale. Aujourd'hui, il a atteint un degré inégalable dans la transgression et le sacrilège. Il va jusqu'à inventer des plastinas de couples mimant l'acte sexuel, de femmes en gestation. Et il verse une rente à vie à un basketteur polonais de 2,48 m atteint d'une grave maladie en échange de son futur cadavre. L'Église a intenté des actions en justice en vain, n'ayant aucun recours juridique défini.
Adamovitch poussa un soupir.
Si Kalinine avait offert à son public de simples corps dans des cercueils, personne n'aurait eu envie d'aller les voir. Et en leur donnant le titre d'œuvre, il attire les masses. Les gens observent l'anatomie comme s'ils regardaient un tableau violent. L'art n'est-il pas l'incarnation du vivant dans l'inanimé? Certaines de ses créations, si je peux dire, rappellent celles de Salvador Dali, de Michel-Ange, de Joseph Beuys, dont il est un fervent admirateur.
Et vous continuez malgré tout à lui fournir ce qu'il ne considère que comme de la matière première?
« Pas moi. Moi, je ne suis qu'un professeur pas toujours d'accord avec ma direction, surtout sur ce sujet. Et je peux vous dire que les débats sont nombreux au sein même de la faculté. Mais ce n'est un secret pour personne, il y a beaucoup d'argent en jeu. Kalinine paie aujourd'hui chaque corps une fortune. De surcroît, les donneurs qui lui sont envoyés ont fourni de leur vivant leur consentement pour qu'éventuellement leur cadavre soit utilisé à ses fins. » Ça peut sembler bizarre, mais pour quelques-uns, être dans un musée, passé entre les mains de Kalinine, c'est une alternative à la décomposition, un moyen d'exister éternellement. Certains professeurs racontent même, pour plaisanter, que ceux qui donnent leur corps au plastinarium le font pour avoir l'entrée gratuite à vie.
Il se tut comme si son disque dur s'était subitement arrêté, puis revint vers Gabriel.
À vous de me renseigner à présent.
Gabriel fixait le sol, les pupilles dilatées, plongées dans ses pensées. Il revoyait les deux corps portés par des treuils et immergés dans l'acide pour qu'ils disparaissent totalement de la surface de la Terre. Ces cadavres que Kalinine avait achetés ici, au laboratoire d'anatomie, afin de, officiellement, pouvoir les écorcher, ce qu'il n'avait jamais fait.
Seule l'obtention des certificats l'intéressait,
marmonna-t-il entre ses dents.
Pardon ?
Gabriel se dressa et fit brièvement face à son interlocuteur demeuré assis sur le banc.
« Merci. »
Avant que le médecin ait le temps de réagir, Gabriel s'éloigna d'un pas rapide, la tête enfoncée entre les épaules. Il rejoignit la masse des étudiants, bifurqua derrière la grille et disparut dans la rue. Si les flics polonais venaient prochainement poser des questions, il était probable que Stefan Adamovitch leur parle d'un Français impossible à décrire à cause de son visage tuméfié. Il expliquerait que cet homme bizarre était en quête d'informations sur deux corps, les K-417 et K-442, lui avait montré des photos terribles, dont celle de chair dissoute. Ces enquêteurs chercheraient à saisir les motivations de l'étranger. Ils iraient certainement au plastinarium, retrouveraient les certificats en bonne et due forme établis par la faculté de médecine de Bialystok et demanderaient à voir les écorchés associés. Et ils les auraient face à eux, et ils n'y comprendraient rien. Parce que la vérité dépassait ce que tout cerveau normalement constitué pouvait imaginer. Au moment où il regagna sa voiture, il reçut un SMS laconique de Paul. Abergel s'est suicidé. Il balança son téléphone sur le siège passager et cala sa nuque contre l'appui-tête, massant ses globes oculaires douloureux. Encore un de ces salopards qui leur glissait entre les mains. Il programma l'adresse du plastinarium dégoté sur Internet. Dans 3 heures, il serait sur place. Au bout du bout. il ne ferait plus demi-tour. Il allait couper la dernière tête d'une hydre abominable qui, depuis des années, accomplissait le mal au nom de l'art. Julie, Mathilde et sans doute de nombreux autres avaient été exposés à la plume de Caleb Traskman, au pinceau d'Arvel Gaessa, à l'appareil photo d'Andrea Habergel et au scalpel de Dmitri Kalinin. C'est là que la sanglante épopée prenait fin. Kalinin se fournissait en cadavres à la faculté, se débarrassait de certains d'entre eux dans des bains d'acide et les remplaçait par les anonymes que lui et sa bande de dégénérés avaient un jour kidnappés. Puis il les écorchait avant de les exposer aux yeux du public, certificat en main, le crime parfait. Les doigts de Gabriel se crispèrent sur le volant. Le règne de cette ordure était terminé. Il allait le tuer de ses propres mains.